Bonjour Alain Bocquet.
Oui, bonjour.
Et d'abord, félicitations pour ce titre, Sans domicile fisc.
Oui.
Un ouvrage consacré, on l'aura compris, à l'évasion fiscale. C'est la prolongation, en quelque sorte, du travail que vous aviez effectué avec Nicolas Dupont-Aignan, un rapport parlementaire sur cette question de l'évasion fiscale, qui coûte une fortune aux États, entre 60 et 80 milliards d'euros pour la France. Pour vous, cette situation ne peut plus durer. Vous la décrivez comme explosive et vous réclamez donc aujourd'hui l'organisation d'une grande conférence mondiale sur cette question, sur le modèle de la COP21.
Tout à fait, tout à fait. Je pense que parmi les enjeux de ce début de siècle, il y a évidemment le réchauffement de la planète, mais il y a aussi et surtout la surchauffe de la finance, le fait qu'elle devient folle, spéculative, et que ça désarticule complètement l'avenir de la société mondiale. Donc c'est un enjeu, c'est un fléau planétaire qui mérite une réponse planétaire, et je pense que la proposition d'une COP correspond tout à fait, COP fiscale, COP financière, avec évidemment à la clé la mise en place d'un organisme de gouvernance financière du monde. On a bien l'OMS pour la santé, on a l'OMC pour le commerce, pourquoi pas une sorte d'organisation qui permettrait de mettre tous les pays dans le coup. Pour l'instant, le monde de la finance est maîtrisé quelque part par une vingtaine de pays, le G20, mais les pays du Sud sont complètement largués et hors course.
Alors quel serait le rôle de cette organisation mondiale que vous appelez de vos voeux, donc sur le modèle, vous l'avez dit, de l'OMC ou de l'OMS ?
Eh bien ce serait d'aller, évidemment, on n'est pas... On sait très bien que ce ne sera pas d'un coup de baguette magique, mais ce serait d'aller progressivement vers des règles partagées par tous les pays, par toutes les nations, en ce qui concerne notamment la gestion de la fiscalité, une harmonisation progressive de la fiscalité, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on en finisse avec ces multinationales, richissimes multinationales, qui décident quelque part d'aller s'installer là où elles veulent, là où on ne paye pas d'impôts. On vient d'avoir l'exemple récent de Apple en Irlande, hein, qui payait 0,005% d'impôts dans un pays qui était déjà très bas en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, autour de 12%. Et ces messieurs, ces dirigeants, eh bien, imposent aux États leur logique. Il faut que la politique avec un grand P, c'est-à-dire les représentants de la démocratie des peuples, eh bien, reprennent la main dans cette affaire.
On a vu que l'Union européenne a demandé à l'Irlande de récupérer les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux indûment accordés ou illégalement en quelque sorte accordés à Apple. L'Irlande ne veut pas et envisage de faire appel de cette décision. Est-ce que ça ne démontre pas que la fiscalité est un instrument économique sur lequel les États aujourd'hui veulent garder leur souveraineté?
Oui, mais c'est une situation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Europe est en panne, l'Europe est dans une situation catastrophique, il n'y aura bientôt plus d'Europe, on vient de connaître le Brexit, c'est pas comme cela qu'on va construire, par exemple, au niveau européen, un avenir s'il n'y a pas une harmonisation fiscale progressive, s'il n'y a pas une harmonisation sociale, et quand on gratte un peu, on s'aperçoit aussi que certains dirigeants de certains pays sont quand même dans une situation de compromission totale avec le monde de l'argent. Donc il y a plusieurs exemples qui en témoignent.
Oui, vous évoquez, vous venez d'en parler, hein, vous évoquez dans votre livre la mise en place d'une imposition mondiale. On voit qu'on n'arrive déjà pas à le faire au sein de l'Union européenne. Est-ce que ça n'est pas un peu chimérique de penser qu'on pourrait le faire au plan mondial ?
Écoutez, nous sommes conscients que ce travail et ce chantier est un chantier himalayesque.
Ouais. Et vous parlez d'une génération nécessaire.
Moi, je pense très franchement que c'est une génération. On a d'ailleurs dédié notre livre à nos petits-enfants, hein, de mon frère et de moi-même, et aux petits-enfants du monde. Mais nous avons la responsabilité de ne pas laisser à ceux qui vont nous suivre, à nos enfants, nos petits-enfants, à un monde chaotique, un monde catastrophique, et faire tomber la société humaine dans l'abîme. Donc il faut prendre nos responsabilités, c'est un vaste chantier. Après tout, c'est la même bataille en ce qui concerne les gaz à effet de serre. C'est le même problème. On pourrait penser que c'est aussi chimérique, et pourtant, ce combat, il est engagé. Tout le monde ne respecte pas forcément les règles pour aujourd'hui. Cela dit, c'est un combat légitime, c'est une responsabilité citoyenne, mondiale, et la France et l'Europe doivent jouer un rôle pionnier dans cette affaire.
Alors, puisque vous parlez de la France, est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, en France, donc, un manque de volonté politique de se donner tous les moyens pour lutter contre l'évasion fiscale?
Tout à fait. Le débat récent sur la loi Sapin 2 en témoigne. Bon, je ne vais pas faire appel à l'actualité, le procès actuel d'un ancien ministre du budget, qu'on voit encore trôner devant une tribune dans la lutte contre la fraude fiscale et être lui-même responsable de fraude fiscale.
Jérôme Cahuzac. Oui.
Voilà, quand on voit également le fameux verrou de Bercy, qui est une spécialité française, où la justice ne peut pas prendre en main les questions des fraudeurs du fisc. Après tout, il n'y a aucun fraudeur du fisc aujourd'hui qui est en prison, hein, d'accord. Ça montre bien qu'on est un peu faiblard. Il y a une sorte de pleutrerie qu'il faut arrêter si on veut marquer des points. Pour l'instant, le fraudeur, je vois, on en donne l'exemple dans notre livre de McDo, qui devait autour d'un milliard d'euros d'impôts, et la négociation va se faire autour de 300 millions. Donc c'est une situation où le fraudeur est en situation de gagner quand même. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ce bal des hypocrites.
Alors, vous allez au-delà de la plotterie dans votre livre. Vous évoquez des connivences. Vous venez de l'évoquer, du verrou de Bercy. C'est le ministère du budget, dites-vous, qui décide d'aller au pénal et pas le parquet. Une exception mondiale. Or, le ministère, ajoutez-vous, préfère négocier pour récupérer de l'argent plutôt que d'aller en justice. Cela arrange beaucoup de gens. Qui cela arrange-t-il, Alain Bocquet ?
Ça arrange. Bercy, son argument, c'est de dire, si on part en justice, on est parti pour 10 ou 15 ans, donc on fait rentrer de l'argent frais immédiatement, mais dans des compromis qui sont avantageux aussi pour le tricheur, qui, au bout du bout, ne paye en général pas totalement l'impôt qu'il aurait dû payer dans les décennies qui ont précédé. Donc, en fait, ça arrange tout le monde, cette affaire. Et comme il n'y a pas de peine de prison à la clé, sauf exception, mais pour l'instant, en France, ça n'existe pas, dans les faits. Comme le disait mon collègue Touré dans un débat de Sapin 2, s'il n'y a pas la peine de prison, il y a toujours quelqu'un, soit une entreprise, soit sur des bénéfices, des gens qui paieront l'argent. Donc il n'y a pas de victime dans cette affaire. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment mettre une certaine fermeté. Les règles, après tout, la loi, elle doit être partagée par tout le monde, et personne ne peut échapper à la loi, et en général, c'est les plus riches, les plus fortunés qui y échappent.
Est-ce que vous pensez pouvoir imposer ce sujet dans la campagne présidentielle ?
Eh bien, je ne vous cache pas que c'est notre combat, que ce livre tombe au début de l'ouverture de cette campagne, et qu'on constate bien qu'aujourd'hui, tous les candidats putatifs n'évoquent plus cette question. C'est pourtant une question cruciale pour l'avenir de la gestion de la France demain et de l'Europe. Donc nous envisageons de mener le combat avec ce livre, et nous invitons toutes les personnes qui sont concernées au-delà des opinions, des convictions, pour faire avancer cette idée, pour que ça soit vraiment au cœur du débat de l'élection présidentielle. Et ça, je crois que c'est avec des engagements clairs, avec des choix et des décisions claires.
Merci Alain Bocquet, bonne journée.